sur Via 95. C'est le parc en 30 minutes. L'actualité et le déploiement du parc industriel et portuaire de Bécancour. Et on répond à vos questions. Tout ça en 30 minutes. Voici Marc Rochette.
Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Le Parc en 30 minutes qui est présentée en collaboration avec la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, communément appelée la SPIB. Et j'ai toujours le plaisir de retrouver son président-directeur général, Donald Olivier. Bonjour, Donald.
Bonjour, Marc.
Déjà notre 40e émission.
Oh, il en passe vite.
C'est fantastique, ça. Et on a aussi en studio une invitée que nous allons présenter plus tard dans l'émission pour une annonce fort intéressante. On va laisser le suspense. Donc, pour tout de suite, on sait qu'on a une invitée avec nous. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux rappeler aux auditeurs, auditrices, qu'il est possible de poser vos questions en allant tout simplement sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes, et en cliquant sur « Poser vos questions ». Ou on peut le faire aussi par texto, par téléphone, 819-519-9050, 819-519-9050. Profitez de cette occasion d'avoir Donald Olivier en studio pour poser vos questions. Dans le fond, à chaque émission, on fait un retour sur l'actualité, mais j'ai le goût de dire qu'aujourd'hui, ce sera un gros retour sur l'actualité, Donald, parce que la semaine dernière, on annonçait dans les médias que deux gros projets de la filière batterie, c'est comme ça qu'on le présentait, là, tombaient à l'eau dans le parc industriel, soit la phase 2 d'Ultium Cam, mise sur pause, le projet d'usine de Vallée qui est annulé, c'est comme ça que ça a été présenté. Quelle est ta réaction face à cette nouvelle qui a créé pas mal d'effets dans la région?
Ben, tu sais, on va en parler avec le retour sur l'actualité, mais c'est sûr que je pense que ça a semé beaucoup de confusion, parce que, bon, puis je lance le petit défi tout de suite aux auditeurs, là, tapez annonce Ultium Cam phase 2, là, puis vous ne trouverez rien avant les 4-5 derniers jours. Fait que donc, c'était pas annoncé. Fait que donc, là, je me mets dans la peau des citoyens. Ils voient une image du building d'Ultium Cam, puis ils entendent une pause. Fait que donc, ils n'ont pas le choix de faire une association, de dire « OK, le projet est sur pause », alors que c'est la phase 2. Puis la phase 2, ben, n'était pas annoncée. T'sais. Donc, cette semaine, évidemment, c'est vrai qu'il y a une phase 2 qui se travaillait. Mais fait que c'est sûr, j'ai trouvé que ça avait amené beaucoup de confusion de la façon que ça a été couvert. Ça fait que ben, aujourd'hui, dans cette revue-là, on aura l'occasion, Marc, de préciser des trucs un peu où est-ce qu'on en est avec ça.
Parce que bon, il y a cette nouvelle-là, le projet d'usine de Vallée qui est annulé aussi. C'est un petit peu la même histoire parce que il n'y avait rien d'officialisé? Ou
Non, mais dans le fond, on peut y aller sur ces deux sujets-là. Oui, oui. Donc, admettons, Vallée, c'était un projet pour faire du sulfate de nickel. Et puis eux, pourquoi les citoyens... En passant, c'est que on a plein d'opportunités qu'on travaille toujours, à toutes les semaines. Puis je donne un ratio, là. C'est peut-être sur 10 opportunités qu'on travaille, il y en a une qui va accoucher. Mm-hmm. Donc, c'est normal en développement d'affaires d'avoir plein de trucs sur lesquels on travaille. Mais c'est clair qu'on n'a pas du succès partout. Puis Vallée, c'est un projet sur lequel on travaillait. Puis eux, pourquoi ils en ont parlé publiquement, c'est qu'ils disaient, si on le fait, on va être sûr qu'ils se fassent rapidement. Donc, ils ont déclenché leur étude d'impact environnemental. Donc, ils devaient faire, si le projet allait de l'avant, ils devaient faire une étude d'impact environnemental. Fait que c'est pour ça que ça a été connu des gens. Il n'y a pas eu d'annonce, il n'y a aucun politicien qui a annoncé le projet de Vallée. Et puis évidemment, on a su la semaine passée que Vallée ben, était connecté à une expansion d'Ultium Cam, ce qui n'était pas ce que les travailleurs d'Ultium le savent, mais les citoyens en général ne savaient pas qu'on travaillait sur une phase 2. Fait que donc, tu sais, je vais dire ça comme ça, mais on ne peut pas perdre ce qu'on n'a pas. On ne peut pas perdre ce qu'on n'a pas, puisque c'était Vallée puis Ultium Cam, ben, Ultium Cam, c'est encore ça. C'est des projets sur une table à dessin. Donc, c'est carrément des projets sur une table à dessin sur lesquels on travaille. Et puis, ben là, Vallée ne fera pas son investissement à Bécancour. Et puis, Ultium Cam, considérant le marché, ben, lève le pied sur l'échéance à laquelle il voulait mettre en service la phase 2.
Puis aussi, bon, je t'ai entendu dans d'autres occasions la semaine passée, il y a quand même un ralentissement des décisions d'investissement, mais c'est pas seulement dans la filière batterie.
Non, ben c'est un peu ça aussi qu'il faut prendre un peu de recul. Fait, une fois qu'on a précisé...
Pour mettre en contexte.
Ben, y a une chose qu'il faut clarifier, là, c'est qu'il n'y a rien qui arrête demain matin sur les projets concrets à Bécancour. Fait, donc, il n'y a pas de travailleurs qui ne rentrent pas depuis jeudi passé. Là, donc, les projets Nemaska Lithium, Ultium Cam, Mireille, Air Liquide, tout ça, ça va de l'avant. Là. Donc, il n'y a rien de ça qui est impacté. Ce qu'on a parlé, Ultium Cam phase 2 puis Vallée, c'est des projets qui étaient sur la table à dessin. Les gens qui pourraient reprocher de dire « Ah, ben c'est ça, ils ont fait des annonces qui ne s'avèrent pas », ben je regrette, mais il n'y a pas eu d'annonce. T'sais, donc, il n'y a pas eu d'annonce phase 2 Ultium Cam. et Vallée, c'est pas tant une annonce qu'ils devaient, ils devaient préparer leur étude d'impact. Et puis, une fois qu'on a dit ça, ben c'est clair que, tu sais, moi, je trouve que ce qui nous arrive, c'est un peu un exemple ou de la concrétude versus ce qui est dit à haut niveau. Mm-hmm. Donc, à haut niveau, on l'entend, les politiques, les nouvelles politiques américaines causent un peu de tracas, hein, causent beaucoup de tracas au niveau économique. Deux choses qui ont pris comme orientation aux États-Unis qui nous impactent, évidemment, ils ont levé le pied sur toute l'électrification des transports. Donc, même les projets verts, les projets de production d'énergie verte, éolien, solaire et tout ça, ils lèvent le pied, mais ils pèsent sur la pédale pour les projets fossiles ou charbon. Mm-hmm. Donc, mm-hmm. ça, c'est clair que ça a un impact. Mais l'autre chose, c'est que les décisions d'investissement, les élus, on l'entend des fois, François-Philippe Champagne qui en parle, la ministre Fréchette aussi, que les décisions d'investissement sont difficiles à prendre. Puis, admettons, le projet de Vallée, là, qui est de l'ordre de 300 quelques millions, imaginez-vous quelqu'un, peu importe, même, mettons, l'auditeur qui se met dans la peau, là, de dire, OK, j'ai un 300 millions ou un milliard à investir, mais je ne connais pas les règles du jeu. Parce mm-hmm. que, tu sais, les entreprises qui viennent à Bécancour, oui, il y a certaines entreprises de services qui offrent plus des services localement, mais toutes les grosses entreprises qui arrivent à Bécancour, là, ils ne viennent pas pour le marché québécois, ils ne viennent pas pour le marché canadien. Ils viennent s'établir à Bécancour pour le marché nord-américain. Mm-hmm. Fait que donc, c'est comme si tu investis 100 millions, 300 millions, 1 milliard à Bécancour ou ailleurs au Québec ou au Canada, mais tu ne connais pas les règles du jeu qui vont prévaloir avec ton partenaire majeur, les États-Unis, avec ton marché majeur, les États-Unis. Fait que c'est clair qu'il y a un impact sur le ralentissement des décisions. Fait que là, tout ce qu'on entend, ben là, je suis obligé de dire que Bécancour le vit sur des opportunités. Mm-hmm. Il faut nommer les trucs tels qu'ils sont. Ce n'était pas des projets démarrés qu'on arrête. C'est des opportunités qui ne s'avéreront pas. Ben, c'est clair que le contexte américain y est pour... c'est la raison ultime.
Mais comme tu l'as dit rapidement, Donald, il y a encore des projets actifs à Bécancour. Là, je pense à Lithium Cam, effectivement. Les premiers essais se poursuivent avec succès selon l'entreprise. La mise en service reste prévue pour 2026. Et la phase 1 ne dépendait pas de la phase 2 de toute façon. Donc, si on fait le tour un petit peu de la filière batterie, je pense que l'occasion est belle de faire le point. Là. Les dossiers actifs, Ultium Cam, la phase 1, ça fonctionne.
Oui, donc Ultium Cam, la phase 1 fonctionne. Ils ont émis leur communiqué ou leur position par rapport à ce qui est sorti. Donc, évidemment, je le savais, mais là, il faut que ça vienne de leur bouche à eux. Mm-hmm. Donc, la phase 1 va de l'avant. Ils ne lèvent pas le pied du tout là-dessus. Oui, il lève le pied sur une potentielle phase 2, mais comme je vous dis, je mets le défi aux auditeurs. Là, faites la recherche, là, vous ne verrez pas d'annonces qui ont été faites. Mais ça, c'est comme toutes les autres opportunités qu'on travaille qui ne sont pas publiques. Fait que donc, ça va de l'avant.
Mirae,
ça va de l'avant. Mirae est intimement lié à la mise en service, mise en production du Lithium Cam aussi, parce qu'ils vont travailler ensemble. Mais Nemaska Lithium aussi, ça suit son cours. Donc, Nemaska Lithium, le projet, sont vraiment... À leur pointe de travailleurs, du nombre de travailleurs sur le site, fait que tout ça va de l'avant. Fait que donc, Air Liquide aussi, il était évoqué dans l'article, OK, Air Liquide, peut-être des enjeux, mais je veux que les gens comprennent que le projet va de l'avant, puis il pourrait y avoir des discussions entre Air Liquide puis les investisseurs de Bécancour, parce que s'il y a des délais sur les mises en service, mais c'est des contrats entre privés. Fait que, donc, c'est des contrats entre privés que c'est à eux à s'arrimer, mais on peut déduire que s'il y a des délais avec EcoPro, puis qu'il y a des délais avec une phase ultérieure du lithium, bien peut-être qu'Air Liquide se ramasse avec une production qui n'écouleront pas dans le temps qu'il avait prévu.
Là. Nouveau Monde Graphite.
Nouveau Monde Graphite, c'est à l'étude. Puis justement, ils réagissaient vendredi passé, parce que eux ils sont encore alignés sur leur projet. T'sais. Donc, okay. Eux autres, ils n'ont pas encore débuté avec Bécancours. Donc, le projet n'est pas débuté concrètement sur le chantier, mais leur perspective est toujours intéressante. Mais c'est un projet à l'étude. T'sais, nous, à la Société du Parc, on disait que Vallée et Nouveau Monde Graphite, c'est des projets matures, mais qui n'étaient pas encore confirmés. Fait que là, Vallée est confirmé qu'il ne se fera pas. Mais Nouveau Monde Graphite, les perspectives sont quand même encore positives.
Toujours dans les médias, on remet en cause, en doute aussi, la relance, la reprise des activités chez EcoPro. Est-ce que tu as du nouveau là-dedans?
Ben écoute, Seng Young, le premier dirigeant d'EcoPro était à mon bureau, pas la semaine passée, l'autre. Puis on est au même point dans le sens qu'il faut qu'ils trouvent preneur pour leur production. Donc, eux autres sont encore dans le mode, évidemment, de repartir ce site-là. De trouver preneur pour leur production. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, l'incertitude avec les Américains, c'est sûr que ça ne l'aide pas. Mm-hmm. Donc, C'est sûr que ça l'aide pas, mais eux sont pas dans le mode de baisser les bras, ils sont dans le mode de trouver preneur et puis par la suite de redémarrer le projet. Mais tu sais, bon, les articles de journaux, ils font leur travail, faut vendre des copies et tout ça. Mais tu sais, si on prenait un pas de recul puis qu'on regardait ce qui se passe au Canada, bon, on verrait que Bécancour, là, on a 5 projets actifs qui vont de l'avant. On verrait qu'en Ontario, Honda a arrêté avant même d'avoir commencé. On verrait qu'à Saint-Thomas, Powerco avec Vaux ont redémarré très, très, très tranquillement. Ça fait que donc, tu sais, ce qu'on a, on l'a, puis on va être bien préparé pour lorsqu'il y aura une reprise, parce que c'est une question de temps avant que ça reprenne.
Donc, il ne faut pas perdre de vue ce qui se passe de bien aussi.
Bien, il ne faut pas perdre de vue ce qui se passe de bien, mais aussi, tu sais, je fais un parallèle, là, tu connais le parallèle que j'ai fait avec l'hydroélectricité, là. C'est que, tu sais, les premiers qui ont vu le potentiel hydroélectrique au Québec, là, je suis obligé de dire que ce n'est pas les Québécois. C'est les investisseurs étrangers qui ont vu les forces hydrauliques comme moteur de développement économique, la fameuse Shawinigan Water and Power, Montreal Lightning. Donc, toutes ces compagnies-là qui ont vu le potentiel et puis qui ont investi. Et puis là, évidemment, les Québécois se sont réveillés. On a eu Hydro-Québec qui a été créé. Mais là, les minéraux critiques, c'est un peu ça aussi qui se passe. Puis tu sais, je lisais aussi des trucs, ah, OK, mais c'est un succès, c'est un échec, mais tu peux pas juger du succès ou un échec
parce
sur deux ans.
On vit une révolution aussi.
Oui, on vit une révolution, mais tu sais, clairement, c'est sur des décennies qu'on va voir si on s'est trompé ou pas. Puis ceux qui disent que la filière batterie, c'est pas pour nous, ben la question que j'ai le goût de leur poser, on fait quoi avec nos minéraux critiques? Qu'est-ce qu'on fait avec nos minéraux critiques? Si la filière batterie, c'est pas une bonne façon de les valoriser, on fait quoi avec notre lithium? On fait quoi avec notre nickel? On fait quoi avec le cobalt? On ship ça par bateau ailleurs? Et donc, pour moi, il y a comme une évidence que ces minéraux critiques-là vont amener, ils amènent déjà de la richesse, mais on va amener encore plus d'opportunités. Puis c'est un peu dur comme discussion, je trouve, être pour ou contre quelque chose, alors que c'est comme des ressources naturelles qu'il faut exploiter. Et puis, un peu comme l'hydroélectricité, c'est des investisseurs étrangers qui voient le potentiel qu'on a chez nous avant nous. Fait que ça serait le fun que les Québécois réalisent que ces minéraux critiques-là, c'est vraiment un tremplin pour le futur.
Autre dossier qui est apparu dans les médias, Ultium Universe, qui aurait choisi de s'installer au Texas sans mettre de côté ses plans pour Bécancour. Qu'en est-il de ce projet-là?
Oui, donc c'est Lithium Universe.
Très bonne correction.
Il y a assez de confusion avec Lithium Cam phase 1, phase 2.
Merci,
on n'ajoutera pas.
Lithium, exactement.
Lithium Universe, c'est un start-up. Là. C'est une entreprise en démarrage australienne. On avait discuté une entente d'option pour eux sur un terrain à Bécancour. Et puis, bon, nous, on a peu ou pas de discussion avec eux parce qu'un des termes principaux de l'entente d'option, ils n'ont pas été en mesure de le respecter. Fait que, oui, j'étais surpris de l'article la semaine passée qui disait, OK, on regarde ailleurs, mais on est encore à Bécancour alors que, tu sais, ils n'ont pas de droit sur aucun terrain. Puis, c'est un start-up. Fait que, tu sais, je veux juste que les gens comprennent, un start-up, là, ça doit faire parler de lui pour relever du financement.
Je comprends. Rapidement aussi, avant qu'on aille à la pause... Dans le cas de Canada et Forge, un jugement a été rendu public dans le dossier vendredi dernier. On sait que c'est à l'arrêt depuis le mois d'août. L'entreprise a été placée sous séquestre, mais on évite la faillite, on met en place un processus de vente. Est-ce qu'on peut avoir une lueur d'espoir pour cette entreprise-là?
Bien, moi, je pense que oui, parce que, bon, mettons, il y a Virentia aussi qui est sous séquestre. Puis Virentia, le bâtiment, il est quand même assez spécifique aux opérations. T'sais, mettons, pour ce qu'il fait, il est très, très, très particulier. Alors que le bâtiment de Canada, c'est comme plus vaste, plus aire ouverte, avec des équipements plus traditionnels. Ça fait que ça serait pas surprenant qu'il y ait du succès parce que, tu sais, on parlait d'opportunités tout à l'heure, là. Ben, mon téléphone sonne souvent pour des investisseurs qui veulent venir à Bécancour, mais ils veulent pas construire. Donc, ils veulent pas se taper de la construction. Ils aimeraient avoir un bâtiment tout prêt. Et puis, c'est des opportunités, donc, qu'on laisse aller parce qu'on n'a pas les bâtiments pour répondre à leurs besoins. Ça fait que je suis pas surpris que Canada Oil, qui ait des gens intéressés, parce que c'est quand même un bâtiment très grand et puis qui est très compatible avec des usages industriels qui pourraient arriver dans le parc. Là.
Puis peut-être, avant d'aller à la pause, un autre reportage parlait de cette exportation de l'aluminium vers l'Europe à partir du port de Bécancour. C'est un nouveau phénomène, ça?
C'est un nouveau phénomène. Puis tu sais, Bécancour, les titres de la semaine passée qu'il y avait des mauvaises nouvelles à Bécancour, bon, je l'ai dit plusieurs fois aujourd'hui, c'est des opportunités qu'on n'a pas, c'est pas des projets qui arrêtent. Mais ce qui va bien à Bécancour, c'est les activités portuaires sont en hausse. Oh. Tu sais, je suis allé à une rencontre avec le corridor Saint-Laurent-Grand-Lac. Là. Au Grand-Lac, ils ne vivent pas ce qu'on vit. Hein. Le Grand-Lac, c'est beaucoup le marché Canada-États-Unis direct. Fait que donc, eux, ils vivent une baisse, mais nous, au port, on vit une hausse. Donc, oui, effectivement, il y a eu des bateaux d'aluminium. Donc, l'aluminium part du Québec pour aller ailleurs dans le monde. Fait que donc, ça s'était pas vu à date, l'exportation de ce type-là à Bécancour.
Ben, je pense que merci, Donald, d'avoir pris notre première moitié d'émission pour faire le point sur tous ces dossiers d'actualité. On en avait plusieurs et ça valait la peine de faire le tour. Et on s'en va à la pause, mais on invite toujours les gens à poser vos questions. Profitez de cette pause pour nous contacter, si ce n'est déjà fait, en allant sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes, cliquez sur « Poser vos questions » ou au 819-519-9050, 819-519-9050, par texto, par téléphone, posez vos questions. Et on a avec nous Donald Olivier. Et après la pause, on va présenter notre invité mystère du jour pour nous faire une belle annonce. Donc, restez des nôtres et on revient après la pause.
De retour à l'émission Le Parc en 30 minutes avec Marc Rochette.
Nous sommes de retour donc avec Donald Olivier et notre invité que nous allons présenter dans quelques secondes. Mais... on invite les gens à nous écrire. Une question du public, Donald, est-ce que la SPIB, la Société du Parc, avait déjà vendu le terrain à Vallée?
La réponse est non. Vallée n'avait pas acquis le terrain, mais Vallée n'avait même pas d'option sur le terrain. Fait que, donc, quand je disais tout à l'heure que Vallée, évidemment, je ne veux pas minimiser la qualité de l'opportunité, c'était une très belle opportunité qui ne s'avérera pas, mais il n'y avait pas d'option. T'sais, donc, une entente d'option, ça garantit le terrain pour l'investisseur. Fait que, donc, on n'était même pas rendu là. Okay. Évidemment, on aurait probablement franchi, si Vallée avait été de l'avant, on aurait franchi ces étapes-là très rapidement, mais pas d'entente d'option en faveur de Vallée et encore moins de transactions immobilières qui avaient été faites avec eux.
D'accord. Le moment tant attendu. Donc, je te laisserai, Donald, nous présenter notre invité du jour.
Ben oui, notre invité, tu t'as dit tout à l'heure qu'on était là pour... on faisait une annonce un peu aujourd'hui, puis il y a parfois des annonces qui sont des annonces industrielles, de dire « OK, il y a un projet qui arrive » ou la semaine passée, un projet qui n'arrive pas. mais il y a d'autres types d'annonces importantes. Puis bon, ici au 98.5, on s'adresse pas mal au 90.5, excusez. Au 90.5, on s'adresse vraiment à la population locale. Et puis, il y a un projet vraiment intéressant pour la population locale qu'on va jaser. Et puis, c'est Karine Richard, directrice soutien technique et environnement, qui est avec nous pour en parler.
Bonjour, Karine.
Bonjour.
Alors, dis-nous, qu'est-ce qui a été annoncé aujourd'hui même, d'ailleurs?
Oui.
Intéressant.
Oui, en fait, super nouvelle. Là. Dans le fond, on a créé 215 hectares d'aires protégées dans le territoire d'activité de la Société du Parc industriel et portuaire de Bécancour. Donc, c'est l'île Montesson. En fait, la fameuse petite Floride, là, où est-ce qu'elle est située, là, c'est un énorme territoire, c'est une très grosse île. Puis on vient de créer ce qu'on appelle une servitude réelle de conservation. Donc, on vient protéger ces territoires-là.
Donc, vous aviez déjà des hectares protégés, hein, je pense.
Oui, on avait déjà une cinquantaine d'hectares qui étaient protégés aux abords du fleuve. Donc, on monte le total à environ 266 hectares, ce qui est l'équivalent là, de 497 terrains de football. Wow, c'est énorme.
En équivalent de terrain de football, on saisit l'ampleur, hein, Donald?
Oui, c'est plus facile à comprendre. Et puis, tu sais, ce projet-là, on avait parlé du plan stratégique. Je crois qu'il y a une rediffusion aussi sur le plan stratégique qui s'en vient, mais c'était carrément une priorité de la Société du Parc dans notre plan stratégique de multiplier par 5 les aires protégées. Et puis, on est conscient que les activités industrielles amènent parfois un peu un remue-ménage et puis... qu'il peut avoir des impacts négatifs pour l'environnement. Mais ce qu'on a fait, puis tu pourrais peut-être en parler, Karine, pourquoi puis comment on est arrivé à Montesson?
Oui, mais en fait, à la base, là, on se rappelle, bon, avec toute la filière batterie qui s'est mise en place, bien, il y a eu de la destruction de milieux humides et hydriques. Là, on en était pleinement conscient. Puis au-delà de payer la compensation financière qui est demandée par le gouvernement, on s'est vraiment posé la question, qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus et de mieux? Puis, si on se rappelle, le parc industriel, c'est environ 70 km² de terrain. Donc, c'est un maudit beau terrain de jeu pour essayer de préserver des habitats, de préserver de la biodiversité. Donc, on a engagé l'OBNL qui s'appelle Nature Avenir, qui est au centre du Québec, qui est un organisme qui fait ça, de la conservation de terrain. Puis, on leur a demandé, on a fait une étude de préfaisabilité. Donc, c'est où le meilleur endroit sur tout le territoire d'activité de la SPIB pour créer une aire protégée? Et sans grande surprise, c'est l'île Montesson qui est ressortie parce que c'était un énorme terrain où est-ce qu'on était pas mal propriétaire. Les 215 hectares, là, c'est nous qui est propriétaire, donc c'était plus simple. Puis au niveau de la biodiversité, il y a des milieux humides, il y a des friches, il y a des cours d'eau. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont intéressantes à préserver. Donc, vu que c'est ressorti très fort, nous, ce qui était intéressant pour nous, c'est qu'on voulait demeurer propriétaire de l'île Montesson. Donc, c'est pour ça qu'on est allé vers la servitude réelle de conservation. Donc, c'est un acte notarié. On est passé chez le notaire avec l'organisme Nature Avenir, puis on vient déterminer quelles sont les limites de ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire sur ce territoire-là.
Donc, si je comprends bien, il y a un plan directeur qui a été réalisé, mais là, il y a un portrait écologique qui est en cours.
Tout à fait. Donc, nous, on s'est assis là, dans l'année 2024-2025 avec les acteurs qui travaillent autour de l'île Montesson, que ce soit les organismes de bassin versant, la ville, la MRC, la communauté autochtone de Wulinac. On s'est assis avec eux puis on leur a dit « qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous ne voulez pas de l'île? » Donc là, il est sorti un paquet de choses qu'on a mis dans l'acte notarié. Et par la suite, là, l'objectif, c'est vraiment le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec vient un peu cartographier qu'est-ce qu'il y a comme biodiversité sur le terrain. Parce qu'on a sorti, à titre d'exemple, qu'on veut créer des sentiers pédestres, mais ça serait un peu aberrant de les faire dans des milieux humides. Mm-hmm. Donc, on vient un peu caractériser tout ça pour aller voir s'il ressemble à quoi notre terrain de jeu.
Donc, c'est un beau projet.
C'est un beau projet. Puis, tu sais, ce qu'on a voulu faire avec Karine, c'est on aurait pu, puis je dirais pas qu'on le fera pas, mais tenter de faire déclarer cette aire-là protégée par le gouvernement du Québec. Mais, tu sais, ça prend un certain temps et tout ça. Puis, nous, ce qu'on souhaitait, c'est qu'au-delà de nous deux, là, tu sais, de l'idée qu'on a, on voulait s'assurer qu'elle soit pérenne dans le temps. Mm-hmm. C'est-à-dire que, bien que moi, je ne veuille pas développer ce terrain-là, bien, il peut arriver quelqu'un d'autre dans 3 ans, 4 ans, 10 ans, 30 ans, puis que les idées changent. Avec cette servitude-là perpétuelle, ben, c'est qu'on vient statuer qu'il n'y aura pas de développement. On vient vraiment, tu sais, c'est aussi fort que si on avait, qu'on était considéré à protéger par le gouvernement. Fait que, tu sais, donc, nous, on ne pourra pas aller de l'avant avec du développement, puis c'est ce qu'on souhaite ne pas développer ou le développer pour rendre accès au public. Puis peut-être, Karine, tu pourras peut-être juste faire un petit bout sur pourquoi c'était aussi significatif et important pour les Wabanaki.
Oui, ben en fait, au niveau des Wabanaki, il y a deux choses. Un, il y a un potentiel archéologique qui est très présent. Là, ça serait probablement la première mission des Wabanaki qui aurait été sur cette île-là. Et c'est aussi, ça permet une espèce de connexion, là, dans le fond, nord-sud, là, entre les territoires qui sont plus au sud, qui sont plus grands là, à la SPIB, et au nord. Là, donc, ça fait une espèce de corridor écologique là, où est-ce que la faune peut transiger nord-sud sur notre territoire d'activité. Donc, c'est pour ça c'est super important. Puis, au-delà de ça, c'est que c'est un territoire qui a énormément de biodiversité. Donc, on venait pas juste cocher une case. Pour nous, c'était super important de pas dire, OK, on préserve un territoire, on se tape dans la main, tout le monde est content. C'était vraiment l'endroit par excellence là, dans tout le territoire de la SPIB qui devait être préservé.
Parce que tu as évoqué, il y a quand même plusieurs partenaires, en tout cas, oui. Qui ont été considérés. Il y aura des consultations citoyennes en 2026?
Oui, tout à fait. Dans le fond, là, il y a des gens qui résident, entre autres, sur l'île. Et il y a des gens qui utilisent l'île, donc que ce soit pour des sentiers, pour la fameuse petite Floride. Là. Donc, notre objectif, c'est vraiment de voir un peu qu'est-ce qu'on en fait de cette île-là puis que le citoyen se la réapproprie. On s'est donné le droit de créer 7,7 kilomètres de sentiers. C'est très, très précis, parce que c'est le même nombre qu'il y a actuellement. Okay. Donc, on s'est donné le droit d'en faire le double sans demander l'autorisation à Nature Avenir, évidemment sans passer dans les milieux humides et les territoires d'espèces à statut. Donc, on veut voir où est-ce qu'on les crée et qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait des pistes multifonctionnelles? Où est-ce qu'on peut faire du ski de fond l'hiver? Ou est-ce qu'au contraire, on veut juste de la randonnée pédestre? Où est-ce qu'on les place? Qu'est-ce qu'on met comme interprétation aussi, comme sensibilisation? Là? Est-ce qu'on met des panneaux, tout ce genre de choses-là. Donc, pour nous, c'était vraiment important que les citoyens soient impliqués dans ce plan-là.
Mm-hmm. Donc, Donald, une belle initiative du côté de la SPIB.
C'est une belle initiative. Puis, autour de la table de mon comité de gestion, j'ai beaucoup d'ingénieurs puis des comptables. Mais là, avec Karine, on a la chance d'avoir une biologiste. Fait que donc, Karine, c'est dans son milieu. Oui, elle a un rôle de gestion à la SPIB, mais elle amène vraiment... puis les gens je vais peut-être décoder juste la façon que tu parles avec des vrais termes là, qu'un biologiste utilise, alors que nous, des fois, on a une terminologie différente. Mais tu sais, c'est vraiment avec Karine qui a joué un grand rôle là-dedans, la façon de trouver comment avancer pour mettre un statut de conservation sur ce territoire-là.
Super. Non, mais écoute, d'autres choses à ajouter, Karine, avant qu'on termine l'émission bientôt?
Oui, vas-y.
Ben, non, vas-y.
Non, j'avais rien à dire. Vas-y.
Écoute, l'objectif qu'on poursuivait, Karine et moi, là-dedans, là, puis la SPIB poursuit, c'est aire de conservation, mais on voulait pas, faut vraiment que les gens comprennent, on veut pas mettre une cloche de verre sur ce territoire-là. C'est vraiment important de le ramener au public. On s'entend qu'on n'ira pas faire de course de VTT là, puis de course de motoneige là, c'est vraiment pas ça l'objectif. Mais ce qu'on souhaite, c'est que les gens qui veulent aller profiter de la nature, ça fait partie du plan biophilique. Et puis la biophilie, Karine, rappelle-nous donc ce que c'est.
Oui, mais la biophilie, en fait, c'est le besoin de l'humain de se connecter à la nature. T'sais, on a tous ce besoin-là d'un jour aller dans la forêt, marcher dans un sentier, parce que ça réduit notre stress, ça réduit l'anxiété. C'est bon aussi pour la rétention des employés, donc les entreprises qui sont plus proches de boisés et tout ça, bien, il y a une meilleure rétention. Donc, ça vient tout rejoindre ça. Là, on a fait un immense plan d'aménagement biophilique pour le parc industriel, puis de se réapproprier pour les citoyens, l'île Montesson, ça faisait partie du plan.
Oui, puis je pense que Karine, tu pourras témoigner qu'on travaille très fort pour faire arriver des projets industriels, mais celui-là, c'est un dossier comme ça, était aussi prioritaire autour
oui,
de la table.
Oui, tout à fait. Ça fait partie des projets de coup de cœur que j'ai travaillé. Là. On travaille dessus depuis 2022, donc le voir se concrétiser. Puis ce n'est que la première étape, parce qu'après ça, bien, il y a le fameux plan de gestion. Donc oui, aller voir les citoyens et voir bon toutes les initiatives qu'on veut mettre en place, qui va être le porteur de ballon, parce que c'est pas juste la SPIB qui va faire des activités. Là. Ça peut être, par exemple, le musée de la biodiversité. Ça peut être des organismes de bassin versant, le Conseil régional de l'environnement, ça peut être des groupes de bénévoles, de citoyens. Donc là, on est vraiment à la mise en place des actions concrètes. Là.
On sent la passion de Karine et c'est une bonne chose parce que la SPIB, il y a beaucoup de passionnés d'ailleurs
dans toute l'équipe. Oui, puis la population va retirer des bénéfices de tout ça. Il y a carrément un bénéfice, peut-être pas demain matin, mais dans les mois, les années qui vont venir, il y a clairement une différence qui va se faire dans la vie des gens avec cet accès-là à ce territoire-là qu'ils n'ont pas aujourd'hui.
Merci Karine Richard qui était avec nous, directrice soutien technique et environnement à la SPIB pour nous avoir parlé de cette belle nouvelle hein, de préservation de milieux naturels sur le territoire de la SPIB. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Puis Donald, avant qu'on se quitte pour cette émission, demain je pense qu'il y a quelque chose d'assez, non seulement que je pense, mais que je sais, qu'il y aura une rencontre importante, soit des développeurs industriels du centre du Québec. Est-ce que tu peux nous en glisser quelques mots rapidement?
Ben oui, c'est une initiative qui est portée par la SPIB. C'est qu'il y a quand même beaucoup de trucs qui se font en termes de retombées économiques, mais parfois, il faut avoir un peu plus de stratégie ou être un peu plus organisé dans tout ça. Et puis, on a pris l'initiative, tous les joueurs de la Rive-Sud qui ont des pieds carrés à développer d'industriels, ben on a pris la décision de se rencontrer pour identifier des pistes de collaboration.
Bonne
pistes
idée.
De collaboration, comment on se développe, mais carrément aussi du partage d'opportunités. T'sais, j'en parle depuis le début, là. T'sais, développer un parc industriel, c'est travailler sur 10 opportunités pour qu'il y en arrive une. Mais puis, il y a comme un complément naturel qui se fait entre les joueurs. Ça fait que donc, tous les joueurs... Drummond, Victo, Place Civil ont tous accepté de venir autour de la table et puis la prochaine année va servir d'échanger sur un peu nos réalités respectives puis identifier les pistes communes de collaboration. Puis Karine fait partie déjà de certaines pistes parce que tu sais, notre fameux guide d'implantation des entreprises, il y a d'autres parcs industriels, pas juste Centre du Québec, mais ailleurs qui s'y sont intéressés. Puis ça a été un petit peu ça, la bougie d'allumage, que tout le monde a dit crème, on devrait collaborer davantage. Fait que c'est ce qui va commencer demain à nos bureaux.
Très bonne initiative encore une fois. Ben, deux belles initiatives qu'on a entendues aujourd'hui. Merci beaucoup. Déjà, la fin de l'émission. Donc, merci à Donald Olivier, donc PDG de la Société du Parc, et Karine Richard, directrice soutien technique et environnement pour la SPIB. Merci d'être venu ce midi pour nous expliquer tous ces beaux projets. Faire le point aussi, Donald, sur tout ce qu'on a entendu sur la Via Batterie. Et donc, la semaine prochaine, on sera en rediffusion. On va entendre à nouveau une émission qu'on avait faite sur le plan stratégique et on reviendra en direct le 3 novembre. Donc, d'ici là, on vous invite à poser vos questions et à aller sur le site ou par téléphone texto. Et c'est Marc Rochette qui vous souhaite une belle semaine. Et donc, soyez des nôtres dans deux semaines en direct, mais la semaine prochaine, d'écouter cette émission en rediffusion sur le plan stratégique de la Société du Parc industriel et portuaire de Bécancour. Bonne journée et bonne semaine à tous.